Vous écoutez France Culture.
Une vie, une œuvre. Merci de nous retrouver pour une émission consacrée aujourd'hui à Karol Wojtyła, 1920-2005, devenu Jean-Paul II en 78. C'était il y a 50 ans, presque jour pour jour, le 11 octobre 1962. Jean XXIII a inauguré le Concile de Vatican II qui allait ouvrir la voie à une modernisation sans précédent de l'Église. On en retient surtout la fin de la messe en latin, mais c'est en réalité une toute nouvelle relation de l'Église à la société qui se met en place à ce moment-là. Les fidèles sont encouragés à lire la Bible et à ne plus laisser le travail d'exégèse aux seuls prêtres. La liberté religieuse est affirmée et des signes d'ouverture importants sont envoyés aux juifs et aux musulmans. Le futur Jean-Paul II a été l'un des acteurs importants de ce concile et il en restera le dépositaire. Durant son pontificat, l'Église deviendra, par bien des aspects, plus accessible. Ils essaient de me comprendre de l'extérieur, mais je ne peux être compris que de l'intérieur, disait Jean-Paul II. Pape mystique et rigoureux, dormant parfois à même le sol, se flagellant, il mit toujours l'accent sur le respect inaltérable de la dignité humaine, quitte à donner une image de rigidité sur bien des questions, celle des mœurs en particulier. On lui a reproché un certain décalage avec la société moderne, décalage qui fut peut-être sciemment entretenu afin de laisser des repères aux fidèles dans un monde dont les changements s'accéléraient de plus en plus. Victor Massé de Lépiné et Pascal Rayet vous proposent aujourd'hui son portrait.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Sancte Romane Ecclesiae cardinalem Wojtyła. Sibi nomen imposuit Ioannis Pauli.
Io ho avuto paura,
j'ai eu peur
di ricevere questa nomina.
J'ai eu peur de cette nomination.
Ma ho fatto nel spirito dell'ubbidienza verso il nostro Signore e nella fiducia totale alla sua madre, Madonna Santissima.
E j'ai eu...
En octobre 78, le jeune Polonais a été tellement remarqué ici et là pour être justement un des hommes qui porte le mieux l'Église, son espérance et ses 2000 ans de théologie et de tradition, qu'il va se retrouver pape. C'est pas du tout un hasard s'il est effectivement élu pape en octobre 78, mais je peux vous garantir une chose, c'est que s'il n'avait pas participé au concile, jamais il ne serait devenu pape.
On peut penser qu'il a compris sa mission comme pape, à la fois comme celui qui devait faire entrer l'Église dans le troisième millénaire et assurer la réception du Concile Vatican II.
C'était un homme ouvert, tout simplement. Et là, alors, comme le Concile était certainement une grande ouverture, non seulement vers le monde, mais vers le monde, mais vers plus profond christianisme, plus profonde vie de l'Église.
Les historiens, dans quelques siècles, en relisant tous ces voyages apostoliques, verront comment un homme a appliqué le concile, car au fond, ça a été sa manière d'imposer le concile.
Karol Wojtyła croit à la Providence.
Bernard Lecomte.
Tout simplement parce qu'il a un passé... peut-être plus étonnant, plus riche, plus bouleversé, plus significatif que la plupart des autres archevêques ou cardinaux de sa génération. Il est polonais. La Pologne, c'est pas n'importe quel pays. C'est le pays qui avait disparu pendant un siècle et demi de la carte d'Europe. Au moment où Karol Wojtyła naît, en 1920, la Pologne vient de ressusciter. Il a dit un jour à l'UNESCO « Je suis fils de la Pologne, ce pays qui a sauvé sa vie par la culture. » Par la culture. C'est pas rien de dire ça en plus à l'UNESCO. Deuxièmement, pas n'importe quelle Pologne. Il est d'une Pologne qui a connu plus que tout autre pays du monde le problème juif. Lorsque l'antisémitisme d'État finit par gagner toutes les communes de Pologne, le petit Karol Wojtyła, il voit ça de très près. Son meilleur copain est juif. Son meilleur copain s'appelle Jerzy Kluger et c'est le fils du président du consistoire de la ville. Et ajoutez la guerre. La guerre. Voilà quelqu'un qui vit la guerre du premier jour au dernier jour, dans le pays probablement où la guerre a fait le plus de dégâts, où elle a été le plus atroce. Et cet homme-là, qui est très croyant, qui vit avec son père à ce moment-là, son père d'ailleurs ne va pas survivre à la guerre, est complètement marqué par tout ce qu'il vit à ce moment-là. Il fait du théâtre clandestin. Il va au séminaire clandestinement aussi.
Il voulait être prêtre. Et s'il n'y avait pas eu la guerre, il serait rentré au séminaire, comme tout un chacun. Il aurait suivi la filière de formation dans un séminaire polonais.
Monseigneur Georges Gilson.
Tandis que là, il se retrouvait devant l'exigence qu'il fallait bien d'abord la clandestinité, et deuxièmement, de pouvoir se nourrir. Il ne faut quand même pas oublier qu'il a perdu sa mère très tôt, hein, il a perdu son père à 20 ans, et qu'il était orphelin. Je crois qu'il a vécu cette vie ouvrière comme une obligation de vie dans une situation politique et sociale, la guerre, qui lui était imposée de l'extérieur. Et donc, il avait une sorte de capacité de résistant. Et il avait fait l'expérience de ce que c'était un peuple qui était brimé dans sa propre liberté. Car le peuple polonais a été un peuple de résistant au nom de sa foi.
Karol Wojtyła va porter des seaux de chaux vives, va faire des travaux extrêmement désagréables, et notamment dans l'usine Solvay. Vous savez, Solvay, c'est la grande multinationale, usine chimique. Et du coup, le jeune Karol se rend compte qu'il y a une vraie solidarité de tous ces ouvriers-là, qui ont tout de suite compris qu'il n'était pas des leurs. Tous les ouvriers qui étaient là ont tout de suite compris que le petit Karol, c'était d'abord un intello, et qu'il fallait l'aider à travailler. Ça, c'est quelque chose, ça fait un petit peu comtesse de Ségur, mais c'était vrai. Et tous les récits qu'on a de cette époque montrent que c'était une forme de résistance, de permettre à un jeune de continuer de travailler pendant tout ce temps-là. C'était une forme d'espérance. Ça veut dire que ces gens-là, ils croyaient à l'avenir. Ils croyaient que l'avenir, c'était des jeunes comme lui, comme Karol. Il fallait qu'ils puissent trouver le temps de lire, de continuer ses études. Alors, il est à peine ordonné que son évêque, qui s'appelle Sapieha, l'envoie à Rome, continuer des études. Ce qui était évidemment déjà un geste très fort, parce que tous les petits Polonais n'étaient pas envoyés à Rome pour faire des études. Il rentre en Pologne, et là, c'est tout à fait normal, il est envoyé dans une paroisse qui s'appelle Niegowicz, qui est une paroisse rurale. Niegowicz, c'est un gros bourg, assez reculé, et je dirais assez reculé dans tous les sens du terme. Comme il est tout jeune prêtre, il est enthousiaste, il fait ce qu'il faut, il fait les baptêmes, il fait les cérémonies, il visite les gens, il visite les hameaux, etc. Sauf que c'est du gâchis. Ce jeune prêtre-là, qui est très bien formé à la théologie, à la philosophie, aux langues étrangères, perd son temps dans ce patelin, c'est dommage, quoi. Et l'archevêque, Sapieha, va le rechercher au bout d'un an. Alors que normalement, il était parti pour rester 3-4 ans, comme tout le monde. Et au bout d'un an, Sapieha va le voir en lui disant « Tu reviens à Cracovie, Karol, et tu vas t'occuper des étudiants. »
Eh bien, je cherchais au moment donné un prêtre, tout simplement un confesseur. Alors, j'ai tombé à Karol Wojtyła, qui était un prêtre auxiliaire auprès de l'église Saint-Florian, l'une des églises de Cracovie.
Karol Tarnowski.
Et d'abord, je ne faisais que les confessions, c'est-à-dire des conversations longues dans le confessionnal. J'étais frappé par la capacité d'écouter de sa part, c'est-à-dire qu'il ne cherchait pas des fautes, n'est-ce pas, des péchés, mais il s'intéressait tout simplement à ce que je pense, à ce que je fais. Et alors, de cette façon, il se faisait comme une sorte d'amitié, au fond, d'une certaine façon, une sorte d'amitié, mais naturellement tout à fait asymétrique. Et au moment donné, il m'a invité d'être membre de son équipe d'étudiants avec qui il faisait des excursions pendant l'été. C'est une sorte de famille, des gens très proches de lui, jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire jusqu'à la fin de sa papauté, de sa vie. Et de cette façon, vraiment, il s'est créé une sorte d'amitié assez intime, même très intime, avec lui comme père. C'est-à-dire qu'il avait une sorte de charisme du père, je crois.
Rien ne pouvait lui correspondre le mieux, et rien ne pouvait lui faire plus plaisir. Lui, il était enchanté parce que ça lui permettait de continuer de lire, de travailler, la philo, la théologie. Il a fait une carrière de prof, une vraie carrière, c'est-à-dire avec les diplômes, le master de l'époque, le doctorat de l'époque, etc. Il va devenir professeur titulaire dans une grande université, hein, qui est l'université de Lublin, à l'est de la Pologne, où il va devenir professeur de théologie morale. Très jeune, naturellement. Mais lui, c'est une vraie vocation, l'enseignement, pour lui. C'est quelque chose de fondamental.
Je sais qu'il a fait sa thèse sur Saint Jean de la Croix.
Marguerite Léna.
Que du point de vue philosophique, les penseurs qui l'ont sans doute le plus marqué, c'est d'une part Max Scheler et d'autre part Edith Stein, hein, une femme. Hein, Jean-Paul II a toujours été très, très attentif à la présence et à l'apport possible des femmes. Donc ce courant personnaliste, bah justement, c'est ce courant phénoménologique, si vous voulez. On pourrait dire que c'est à la fois un courant phénoménologique et personnaliste. Hein, c'est-à-dire l'application de la méthode phénoménologique, bah, une description rigoureuse et respectueuse du donné, appliquée justement aux manifestations de l'existence personnelle.
Justement, la moralité, pour lui, ce n'était pas seulement d'appliquer des règles, n'est-ce pas? C'était une chose beaucoup plus approfondie. C'est ce qu'on peut nommer la vie intérieure. C'est-à-dire que sa moralité était la moralité de l'amour, surtout. L'amour, mais l'amour qui consistait en une fidélité à sa vocation, à ses devoirs, aux proches et à Dieu. C'est-à-dire de travailler d'une certaine façon sur son espérance, sur sa foi, sur sa culture intellectuelle aussi. Moi, je crois qu'il était, dans ce sens, il était l'un des précurseurs, on n'a pas douté. Surtout dans les affaires sexuelles, de mariage, de ces choses-là, n'est-ce pas? Il savait de quoi il parlait, c'est-à-dire c'était son point d'intérêt peut-être le plus accentué ou le plus travaillé pour lui, d'une certaine façon.
Et Wojtyła a emmagasiné une expérience absolument inouïe sur ce plan-là, qui d'ailleurs va déboucher sur un livre, malheureusement peu connu, mais c'est un livre formidable, car il est encore lisible aujourd'hui, je vous le garantis, un livre qui s'appelle « Amour et responsabilité », qui est une espèce de traité d'éducation sexuelle. Ce n'est pas marqué comme ça, mais pas loin. Ça paraît en 1960. Il l'a écrit entre 56 et 57 à peu près, au moment justement où il entend en permanence tous ces jeunes lui parler de ceci. Alors il réunit des médecins, il travaille vraiment le sujet. Et il sort ce bouquin, Amour et responsabilité, qui est un bouquin extraordinaire, parce que dans la Pologne catholico-communiste de l'époque, croyez-moi, les affaires sexuelles, c'était complètement tabou. Mais même un manuel d'éducation sexuelle, c'était inimaginable. Alors écrit en plus par un tout jeune évêque qui parle de façon très crue, très directe. Encore une fois, ce livre-là, il faut l'avoir un peu feuilleté pour comprendre que c'était pas de la théorie tout ça. Eh bien, c'est cet homme-là, une fois devenu archevêque, puis cardinal, puis pape, qui va reprendre tout ça et qui va développer une véritable théologie de la famille, des relations sexuelles et des relations familiales. Alors, évidemment, on n'est pas obligé de tout prendre à la lettre et on peut tout à fait discuter. Mais ce qu'on ne peut pas discuter, c'est la compétence de l'homme.
Les chemins de l'amour selon le Christ est d'un chemin difficile, exigeant. Il nous faut être réalistes. Ceux qui ne vous parlent que de spontanéité, de facilité, vous trompent. La maîtrise progressive de notre vie, apprendre à être celui que Dieu veut, demande déjà un effort patient une lutte sur nous-mêmes. Soyez des hommes et des femmes de conscience. N'étouffez pas votre conscience, ne la déformez pas. Appelez par leur nom le bien et le mal. Inévitablement, vous connaîtrez les contradictions d'une société dont on connaît bien les vices. Sans se départir de la charité, mais avec courage, il nous revient de construire d'abord en nous-mêmes la forme de la société que nous voulons pour demain. La foi est un risque.
Curieusement, cet homme-là détestait la politique. Le jeune prêtre polonais des années 50 a horreur de la politique. Il a connu la guerre, il connaît le communisme, il voit ce qui se passe. Il sait, il croit, il a cette intuition que la politique, ça ne sert à rien. C'est condamné d'avance, que ce n'est pas là que ça se passe. Ce qu'il faut, c'est la relation avec l'autre et la culture. Voilà, alors ça oui. Et ça s'explique parce que, justement, lui ne faisait pas de politique. Il refusait la politique. Il y avait quelqu'un pour ça. Il s'appelait Wyszynski. C'était le cardinal primat. Il était, au fond, l'homme du rapport avec les communistes et l'homme du politique. Et lui, non. Lui, c'était un pasteur, un enseignant, un gars qui portait l'évangile, mais qui voulait surtout pas s'occuper de ça.
Ce qui importait le plus pour Wojtyła, c'était de ne pas succomber aux tentations idéologiques du communisme, c'est-à-dire de justement travailler sur sa culture intérieure, c'est-à-dire sur la culture de l'amour, tout simplement, l'amour, la miséricorde, n'est-ce pas? Puis il soutenait aussi le mouvement de l'intelligentsia, de l'église ouverte, on disait l'église ouverte, c'est-à-dire c'était un groupe éduqué sur le catholicisme français de Maritain, de Mounier, donc tout à fait à l'opposé de certain catholicisme national de Primas Wyszyński, n'est-ce pas? Mais il écrivait aussi à Tygodnik Powszechny, à Znak, n'est-ce pas? Il publiait ses articles, ses pensées. Et je crois qu'il se sentait bien à l'aise, justement, dans cette pensée libre quand même et formée sur la philosophie moderne, n'est-ce pas, sur la phénoménologie justement, et sur l'Église en progrès, quoi, n'est-ce pas, qui préparait à sa façon le Vatican II, n'est-ce pas, le Concile.
Qu'est-ce qui, dans tout ce qu'il était comme prêtre à cette époque, comme prêtre puis comme évêque de Cracovie, était quelque part précurseur du Concile? Qu'est-ce qui était...
À n'en pas douter. Tout, c'est-à-dire l'esprit. L'esprit de ce qu'il disait, de ce qu'il comprenait, comme façon de vivre la réalité même de l'Église, n'est-ce pas? Qui est, selon lui et selon le Concile ensuite, c'était la vie spirituelle, la vie de la communauté en marche, d'une certaine façon, n'est-ce pas? Des gens qui font la communauté invisible, parce que pas nécessairement visible. Et surtout, peut-être, ou à côté de cela, je crois qu'il considérait énormément le rôle de laïca. Il comprenait beaucoup mieux que les autres évêques ici en Pologne le rôle de laïca, non comme les auxiliaires du clergé, mais comme partie décisive de l'Église, tout simplement. Et il était comme ça avec nous, c'est pourquoi on se sentait tout à fait à l'aise avec lui. Rien de cléricalisme, il était anticlérical dans ce sens, dans la façon de se comporter, n'est-ce pas? C'était magnifique ça, et je crois que c'est rare en effet.
Jean 23, 11 octobre 1962.
Il est notoire et bien évident qu'un concile concerne en premier lieu l'Église catholique. Il veut en manifester la vitalité et souligner sa mission spirituelle. Il veut aussi adapter ses moyens pour que la doctrine évangélique soit dignement vécue et plus facilement écoutée parmi les peuples. Le Concile veut enfin montrer au monde comment mettre en pratique la doctrine de son divin fondateur, Prince de la paix. Quiconque vit, en effet, selon cette doctrine, contribue à établir la paix et à favoriser une prospérité véritable.
Personne n'attendait de Jean XXIII un truc pareil. Alors, on se rappelle que le concile précédent date de 1870, qu'il a été interrompu par la guerre franco-prussienne. Personne ne sait, au fond, ce qui va se passer. C'est quoi cette histoire de concile ? Il faut savoir que l'Église catholique, après le pontificat de Pie XII, elle était quand même très figée et très archaïque, très en retard sur la société. Jean XXIII, qui n'a aucun complexe, qui n'a pas l'intelligence et les diplômes de Pie XII, il lance cette histoire en se disant, de toute façon, c'est lui qui dit ça un jour, en montrant, en ouvrant la fenêtre de sa chambre, il faut faire entrer de l'oxygène dans l'Église. Quoi. Voilà. L'archevêque de Cracovie, il n'est pas encore archevêque d'ailleurs, il va l'être en 63. Quand le concile est convoqué, il est tout jeune évêque. Et il va arriver au concile complètement bluffé par ce qui se passe. Et il est complètement ébahi de rencontrer tous les grands cardinaux, tous les grands archevêques. Il passe sa vie à discuter avec les uns et les autres. C'est une aventure extraordinaire pour ce jeune évêque de Cracovie. C'est la même aventure aussi extraordinaire pour le jeune professeur de théologie allemand qui s'appelle Ratzinger. Il y a beaucoup de jeunes là qui vont, grâce au concile, élargir complètement leur esprit, élargir complètement leur façon de voir et devenir, 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, les dirigeants de l'Église.
Je suis allée regarder, c'est très intéressant. Vous savez qu'on a publié il y a quelques années le journal du concile de cet immense théologien qu'est le père Congar. Et alors, c'est très intéressant de voir qu'au début, la première mention, j'ai relevé les mentions, voilà, la première mention, en novembre 62, il déplore d'avoir été empêché par quelqu'un d'aller écouter, dit-il, un Polonais. Bon, c'est, alors on vous indique en note que c'est Karol Wojtyła, mais le père Congar ne sait pas, n'a pas retenu le nom de ce Polonais. La même chose à la session suivante, en 1963, où il dit qu'il vient de recevoir la visite d'un évêque polonais. Il ne le nomme pas, donc là aussi Wojtyła, ça a dû lui paraître incompréhensible comme prononciation, et donc il a partenu son nom. Et il dit, cet évêque vient me voir pour me soumettre des textes, et il réagit avec beaucoup de liberté d'expression et de plume, hein, puisqu'il écrit son journal vraiment avec une très très grande liberté. Hein. Il dit qu'il lui a soumis des textes qui sont assez confus, dit-il. Bon. Et puis ça continue, et ils se connaissent un peu plus à partir du moment où ils travaillent ensemble justement sur ce fameux schéma 13 qui deviendra la constitution Gaudium et Spes. Et il écrit alors, le 2 février 65, Wojtyła fit une forte impression, sa personnalité domine, une sorte d'animation est présente en lui, un pouvoir magnétique, une force prophétique, empreinte de paix et irrésistible. Je trouve ça très émouvant, vous voyez, de voir comment ce grand théologien dominicain, peu à peu, découvre le cardinal, l'évêque d'abord, puis le cardinal Wojtyła, et reste impressionné par l'autorité et la profondeur de ses interventions.
En 1965, Georges Gilson a accompagné le cardinal Veuillot à la quatrième et dernière session du Concile Vatican II.
Donc c'est un grand souvenir de... Évidemment, le dernier, c'est la conclusion du Concile Vatican II. D'abord, le 7 décembre, dans Saint-Pierre, où Paul VI a eu des expressions, j'en donne quelques-unes, tout à fait extraordinaires, hein, sur, au fond, ce Concile n'a dit qu'une seule chose, qu'il aimait le monde. Comme dit l'Évangile, Dieu a tant aimé le monde. Ce concile n'a dit qu'une seule chose, c'est qu'il aimait le monde. Et Jean-Paul II n'a pas cessé, pendant tout son pontificat, à être un homme qui, à travers le monde, a dit « Dieu vous aime, et nous nous aimons les uns les autres ». Nous n'avons pas vécu 50 ans pour l'application de cette vaste assemblée qui aurait pris des décisions comme le législateur qui prend des décisions pour imposer des lois à tout le monde, mais comme un semeur, le semeur sorti pour semer la semence, comme dit Saint-Luc dans la parabole de Saint-Luc au chapitre 8e, et de pouvoir partager véritablement avec le monde entier la conviction. C'est-à-dire, pour moi, le concile était une germination, une semence germée. Et nous pouvons dire que Jean-Paul II a été en effet celui qui a imposé le concile en allant constamment travailler dans tous les pays du monde pour labourer, semer, parfois rectifier, souvent laisser monter la sève et accepter le principe de la réalité, c'est-à-dire de la confrontation aux réalités historiques de notre monde.
La tradition, en l'Église, dans la foi, ne veut dire jamais une chose auquel nous sommes simplement accoutumés. La tradition veut dire une réalité, en même temps une hiérarchie des valeurs, lesquelles on peut toujours découvrir de nouveau, lesquelles peuvent posséder toujours une nouvelle signification et peuvent donner à notre vie un sens. S'il s'agit de temps dernier, il faut souligner que le Concile Vatican II nous a aidé beaucoup à mieux voir et mieux vivre le vrai sens de la foi chrétienne.
Il a écrit un livre magnifique là-dessus qui s'appelle « À la base du renouveau ». C'est la magnifique introduction au concile que je connais. Il comprenait très bien justement de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Pas de rompre avec la tradition, mais justement de la comprendre de façon beaucoup plus chrétienne. Le concile, c'était cela, n'est-ce pas? C'était l'appui de la théologie sur l'anthropologie, c'est-à-dire sur la compréhension meilleure de l'homme, justement. Je crois que c'est une sorte de sécularisation, mais non dans le sens superficiel, mais le plus profond possible, je crois.
Le concile, si on veut vraiment être un théologien un peu serré, un peu précis, c'est quatre constitutions. Les constitutions, ben, on sent bien pour un pays comme le nôtre, hein, c'est le fondement, c'est la base, c'est le fondamental, c'est ce qui ne bougera plus. Bon. À côté, il y a eu 9 ou 8 plutôt décrets, qui est plus de l'ordre, d'application. Bon, comme d'ailleurs dans un État. Et puis, 3 déclarations, qui sont des textes qui n'ont pas l'autorité que peut avoir une constitution. Cependant, la qualification de ces constitutions, qui sont vraiment les sources, la base de la réforme de l'Église catholique à travers le monde pour les temps qui sont les nôtres, il y en a 2 qui sont fondamentales, c'est plus fondamentales, j'allais dire, que les autres, qu'on peut appeler dogmatiques, n'est-ce pas, qui engagent le dogme, et qui engage la foi de tous les catholiques à travers le monde, qui est bien sûr Dei Verbum, le texte sur la révélation, le texte sur la parole, sur le texte sur les Écritures, qui est un texte assez extraordinaire, et puis le deuxième, qui est Lumen Gentium cum sit Christus, qui rappelle que le Christ est la lumière du monde, et non pas l'Église. L'Église est porte-cierge, j'allais dire. C'est Roferrer, comme disait lorsque j'étais gamin. Hein, c'est-à-dire, il porte la lumière. Nous sommes le corps du Christ, qui portons cette lumière, qui réfléchissons cette lumière. Et qui engage notamment sur la redéfinition de l'Église comme signe et sacrement du salut, de la tendresse de Dieu pour le monde et de l'unité de tout le genre humain, Lumen Gentium numéro 1, et l'Église comme peuple de Dieu, assumé et servi par la hiérarchie apostolique.
Alors, vous savez que Lumen Gentium commence par un premier chapitre qui est une véritable méditation spirituelle sur le mystère de l'Église. Hein. L'Église n'est pas une société politique plus ou moins démocratique ou plus ou moins aristocratique ou plus ou moins royale. L'Église est un mystère. Hein. Et il me semble, enfin, vous savez, il faut prendre des symboles hein, parce qu'on ne va pas développer longuement, mais le pape arrivant dans un pays et commençant par baiser la terre, qu'est-ce que ça veut dire hein? Ça veut dire qu'il vient là, d'abord comme quelqu'un qui ne vient pas de lui-même, hein, humblement, et puis qui, en rencontrant le peuple qu'il va rencontrer dans ce pays, hein, rencontre le peuple de Dieu. Hein. Et vous savez que le chapitre de Lumen Gentium consacré au peuple de Dieu, eh bien, on voit très bien où est le cœur. Hein. Le cœur, c'est la mission du Christ envoyé du Père pour sauver tous les hommes. Mais on ne sait pas très bien où est la frontière, parce que le texte développe le mystère de l'Église jusqu'à tous les hommes de bonne volonté. Et il me semble que chaque voyage de Jean-Paul II s'adressait, bien sûr, au cœur de l'Église, il réunissait toujours les évêques, les laïcs, les religieux, les jeunes, les intellectuels, et bon, vous voyez toutes ces catégories qui font la vie de l'Église, mais il s'adressait à travers eux et au-delà d'eux à tous les hommes de bonne volonté. Hein. Pensez, je sais pas, quand il va à Casablanca et qu'il réunit des milliers de jeunes musulmans. Ça veut dire quelque chose sur ce... Enfin, c'est une mise en œuvre, disons, de ce chapitre de Lumen Gentium qui ouvre le peuple de Dieu à l'amour de Dieu pour tous les hommes.
Et puis, Gaudium et Spes. Voilà, nous arrivons là à Gaudium et Spes, qui est un document que certains ne voulaient pas, que d'autres voulaient au contraire, qu'on a fait un long texte, c'est le texte le plus important, n'est-ce pas, qui est de travailler dans une constitution pastorale, et non plus dogmatique, la manière dont l'Église doit se situer au cœur de la société et comment servir les hommes et les femmes qui peuplent l'ensemble de notre univers maintenant. Et donc, c'est divisé en deux grandes parties. Une partie qui est une recherche anthropologique, disons, d'une bonne définition de la personne humaine. C'est un texte tout à fait remarquable. Je viens de le retravailler, et personnellement, je pense que bien souvent, nous avons laissé tomber ce texte au bénéfice de la deuxième partie, qui est de traiter un certain nombre de situations plus concrètes. La famille, la paix, le commerce et l'argent, la science et la recherche, la culture, etc. Et la politique, etc. Et je crois que dans la pensée de Wojtyla, d'après ce que j'ai lu, il y avait le désir de ne retenir que la première partie. Car Wojtyla disait, mais dans 50 ans, l'évolution du monde, l'évolution des sciences, l'évolution des cultures, la rencontre et l'unité peut-être des chrétiens changera notre manière d'aborder ces questions plus concrètes, plus immédiates. Et donc, je crois qu'à la fois, le socle de ce qui est dit sur la personne humaine est un grand service que nous donnons à ce monde où certains commencent à remettre en cause la notion même de personne au bénéfice de l'individu.
Je ne crois pas que Jean-Paul II est un défenseur de l'individu. Jean-Paul II est un défenseur de la personne humaine. Voyez, et là, il y a une petite différence parce que les individus, c'est pratique parce qu'on peut les compter, hein, mais ça veut dire aussi qu'ils sont séparés les uns des autres. Les individus, c'est un concept abstrait et qui vaut aussi bien en logique pour les membres d'une classe logique quelle qu'elle soit. La personne humaine, c'est un mystère là aussi. Hein, la personne humaine, elle n'est jamais totalement constatable empiriquement. Elle déborde toujours toutes ses manifestations. Voyez, et dans la personne humaine, il y a une dimension qu'on peut appeler transcendante. C'est-à-dire justement qui ne peut jamais être traité simplement comme un moyen, comme le disaient déjà les philosophes de la philosophie des Lumières. Donc, et Jean-Paul II s'est fait effectivement, on pourrait dire, le héros de la personne humaine. Dans le contexte qui était le sien, le contexte du marxisme qui définissait l'homme essentiellement comme producteur, consommateur, c'était quelque chose peut-être d'encore plus nécessaire, mais ça l'est autant aujourd'hui où justement le mot d'individu se décline en individualisme.
L'année 78-19, il va faire un clin d'œil à l'ONU, il va célébrer la Déclaration des droits, il ne va pas arrêter de parler des droits de l'homme, avec une espèce de d'application dont personne ne sent encore l'importance, mais il va dire, moi, je veux aller en Pologne parce que il faut que j'aille célébrer la Saint-Stanislas pour clôturer le synode diocésain que j'ai lancé, etc. Les communistes ne comprennent pas bien ça. Ils comprennent simplement que les Polonais sont décidément des gens très romantiques et qui veulent, par sentimentalisme, retrouver leur terre natale. C'est évidemment un peu court comme explication, car on se rend compte, quand il arrive là-bas, qu'il a un projet. C'est-à-dire qu'il veut continuer à parler des droits de l'homme, de la dignité de l'homme, de la primauté de l'homme, dans un système politique et idéologique qui est exactement à l'inverse de ça. Puisque le système communiste, justement, considère fondamentalement, pour aller vite, que l'homme est un rouage de la machine sociale. Alors que lui, le porteur de l'évangile, explique que c'est exactement le contraire. L'homme n'est pas un rouage, non, l'homme est le but de la machine sociale. C'est un propos incroyablement subversif. Et en 1979, quand il fait son premier voyage en Pologne, tout le monde comprend qu'il est en train de faire bouger les choses.
C'était la fête de la liberté. Tout d'un coup, on se sentait libre au milieu, n'est-ce pas, de à la place où il disait la messe, ici à Cracovie en tout cas, parce que j'y étais. Mais c'était quelque chose d'unique. Il fallait un élan comme ça. Il fallait un appel lancé aux Polonais, pas, pour les affermir, pour leur dire vous êtes libres, vous êtes des gens libres. À l'intérieur, il n'y a que le réaliser politiquement, tout simplement, n'est-ce pas. Donc il y avait ensuite la solidarité et tout ça, n'est-ce pas. Avec cette conviction intérieure que ça doit réussir, tout simplement, et que ça va réussir.
Moi, j'étais journaliste avec quelques centaines d'autres le premier jour de ce fameux voyage de 1979, et je peux vous dire que tous les journalistes qui étaient là, cathos ou pas cathos, papistes ou pas papistes, communistes ou pas communistes, tous se sont dit: là, il est en train de se passer un truc. Parce que quand, pendant une semaine, dans un pays communiste, vous voyez ce petit homme en blanc qui s'adresse à 300 000 personnes le premier jour, 200 000 jeunes le lendemain matin à l'aube, 500 000 personnes l'après-midi à Agnieszno, et de ville en ville, 500 000, 300 000, 600 000, le dernier jour à Cracovie, 1 200 000. 1 200 000 habitants de Cracovie et alentour sont venus à la messe pour écouter cet homme-là, qui, évidemment, sans passer par la censure, vous imaginez bien, alors qu'à l'époque, pour éditer une carte de visite, il fallait passer par la censure. Et cet homme-là va parler de l'évangile, de l'homme, des droits de l'homme, de la liberté de l'homme, à tous ces millions de gens. On estime à peu près, les Polonais estiment qu'il a touché, plus ou moins directement, 10 millions de personnes. Le quart de la population, bon, en 8 jours. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Alors nous, les journalistes qui suivions ça, croyez-moi, au bout de 8 jours, on s'est dit, c'est pas possible que ça en reste là. Aucun d'entre nous, je vous rassure, n'avait prévu la chute du mur de Berlin. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, ou de vous faire croire. Mais on s'est tous dit que il s'était vraiment passé un truc, quoi. Et ceux d'entre nous, comme moi j'étais, qui continuaient à travailler sur ces pays-là, ont bien vu, en effet, les conséquences. Alors, conséquences pour la Pologne, d'abord, hein, puisque la conséquence, c'était l'année suivante, ça a été Solidarność. Et je dois dire que lors de la chute du communisme en 89-91, tout ça m'est revenu, les notes que j'avais prises, etc. Et c'est un peu ça qui m'est resté, moi, de cette aventure. C'est que quand on dit « oui, Jean-Paul II a contribué à la chute du communisme », oui, trois fois oui, mais il faut savoir que tout ça n'est pas théorique. Moi, je l'ai vu concrètement, presque charnellement contribuer à la chute du communisme.
Quand on lit les encycliques de Jean-Paul II, je crois, je dis je crois parce que je ne les ai pas toutes lues, hein, mais je crois que les deux citations des textes du Concile Vatican II qui reviennent le plus souvent, ce sont deux citations de la Constitution Gaudium et Spes, justement, hein, numéro 22. En réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Première citation. Et la deuxième citation, qui est tiré du même paragraphe et que je vous lis, c'est la suivante. Hein. Nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une manière que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. Et même, il faudrait citer d'un peu plus haut, voilà, la citation complète. Cela ne vaut pas seulement pour ceux qui croient au Christ, mais bien pour tous les hommes de bonne volonté, dans le cœur desquels invisiblement agit la grâce. En effet, puisque le Christ est mort pour tous, et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une manière que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. Alors, que disent ces deux citations ? La première dit que tout homme, le mystère de l'homme, c'est le mystère de la personne humaine, de toute personne humaine, hein, que tout homme, finalement, peut se comprendre, comprendre sa propre identité, comprendre ce qu'est l'homme, hein, en contemplant, en considérant la manière dont Jésus de Nazareth a été homme. Et que, en ce sens-là, non seulement chacun de nous peut comprendre son identité la plus profonde, en considérant l'identité de Jésus de Nazareth, mais en plus que l'histoire humaine, hein, puisque nous sommes embarqués dans une histoire collective, nous ne sommes pas simplement des individus posés les uns à côté des autres, hein, et bien que l'histoire humaine elle-même doit chercher sa clé ultime de lecture dans le mystère du Verbe incarné. Et deuxième citation, et bien tout homme est associé au mystère pascal. Ça veut dire au mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Quand Jean-Paul II invite à Assise les représentants de toutes les religions pour leur demander de prier avec lui, mais chacun en fonction de sa propre foi, hein, ce n'est pas du tout une espèce de syncrétisme. Que fait là Jean-Paul II, hein? Il demande à ces hommes de venir prier avec lui pour la paix. La paix, c'est l'aspiration de l'histoire universelle. Bon, avec ses essais, ses erreurs, etc. Bon. Et Jean-Paul II est convaincu que tous ces hommes qui vont venir prier avec lui sont tous associés au mystère du salut. Chacun à travers la forme qui est la sienne. Et que tous sont en charge, à travers la diversité des chemins religieux, ils ont en charge l'avenir de l'homme, de la personne humaine.
Lorsqu'on me dit « oui, mais Gaudium et Spes, c'est la joie et l'espérance », je dis « non, vous verrez ce texte qui est sans doute une des phrases de Wotila. C'est « luctus et angor », ça veut dire les pleurs, les malades et les misères. Le texte du Concile là-dessus est tout à fait à relire, hein. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Il n'y a rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Si vous allez lire le discours qu'il a donné à l'UNESCO, c'est exactement la même chose. En allant très loin, car à l'UNESCO, il ose, on lui a reproché, j'allais dire, on lui a reproché. Il dit, je pense surtout, mesdames et messieurs, j'étais à l'UNESCO ce jour-là, ce lundi matin, je pense surtout, mesdames et messieurs, au lien fondamental de l'Évangile, c'est-à-dire du message du Christ et de l'Église, avec l'homme dans son humanité. Ce lien est en effet créateur de culture dans ce fondement même. Pour créer la culture, il faut considérer jusqu'en ses dernières conséquences et intégralement l'homme comme une valeur particulière et autonome, comme sujet porteur de transcendance de la personne.
Il faut affirmer l'homme pour lui-même et non pour quelque autre motif ou raison, uniquement pour lui-même. Bien plus, il faut aimer l'homme parce qu'il est homme. Il faut revendiquer l'amour pour l'homme en raison de la dignité particulière qu'il possède. L'ensemble des affirmations concernant l'homme appartient à la substance même du message du Christ et de la mission de l'Église.
On lui a reproché cette phrase. On lui a dit, mais où est Dieu? Ça l'a vexé, tout. Enfin, moi, je n'arrive pas à comprendre comment on peut penser que, à la source de cette affirmation très forte sur le sens de l'homme, ce n'est pas un humanisme horizontal. C'est une transcendance, il le dit lui-même, à cause de sa rencontre avec le Christ, homme, qui l'a conduit à Dieu. Je trouve que ce qu'il a donné le plus, à mon avis, à l'humanité, c'est en effet cette affirmation de la grandeur de l'homme, parce que lui-même était le prophète de ce Dieu qui lui a fait rencontrer l'homme.
Le Concile Vatican II dit de l'Église qu'elle est un corps, en reprenant une image qui est développée par saint Paul déjà. Notre corps est vivant grâce à la circulation du sang, et la circulation du sang, c'est diastole et systole. Ça veut dire reflux vers le cœur et mouvement vers l'ensemble des membres du corps. Eh bien, Jean-Paul II assume le ministère de Pierre, c'est-à-dire le chef des apôtres, parmi les 12 apôtres choisis par le Christ. Et Jean-Paul II a donné à cette mission une aura tout à fait exceptionnelle à cause de sa personnalité, mais aussi des moyens technologiques, des moyens de communication qui sont les nôtres aujourd'hui. Bon, ça, c'est le mouvement systole. Mais il y a le mouvement diastole. Et le mouvement diastole, il y a plus de 100 voyages, je crois, de Jean-Paul II dans tous les pays du monde. Voyez, et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque fois qu'il va dans un pays, il rassemble les évêques, il écoute les évêques, il prépare d'ailleurs son voyage avec les évêques du lieu, et il fait exister les églises locales, d'une manière tout à fait... forte, enfin, et novatrice même par rapport au pontificat précédent. Donc, il y a les deux. Alors, c'est vrai, on le dit, et c'est très juste, Jean-Paul II ne s'est pas beaucoup occupé du gouvernement de la Curie. Vous voyez, bon, et il a laissé à son successeur, de ce point de vue-là, des tâches à remplir. Mais il y a aussi des dossiers dont il ne s'est pas beaucoup occupé, sans doute pas assez occupé. Mais à côté de ça, il a fait circuler le sang dans l'organisme.
Lorsqu'il est venu à Paris, j'étais donc évêque auxiliaire de Paris, auprès du cardinal Marty. Le pape a invité à déjeuner Monseigneur Marquis, car on préparait depuis 6 mois ce voyage, et ils ont vu un peu les grandes lignes de ça. Bon. Et le pape dit au père Marcus, mais où est le corps de Saint-Denis, puisque c'est votre fondateur, le premier évêque de Paris, Saint-Denis, où est-ce le père Marcus répond, très Saint-Père, ce n'est plus dans Paris-Ville, maintenant c'est à Saint-Denis, qui est un nouveau diocèse que Paul VI a fondé en 1966, octobre 66. Mais vous savez, on n'a pas inscrit ce détour vers... D'abord parce que c'est aussi le tombeau des rois de France. C'est toujours compliqué, hein, de rois de France. Et on a dit, d'abord là-bas, il y a beaucoup d'Africains, beaucoup de Maghrébins. Ben, il dit, pourquoi pas, je parlerai aussi à ces hommes. Et puis, c'est des communistes, hein, ils dirigent la municipalité. Enfin, ils essayent d'éveiller le pape aux difficultés de faire ce détour. Et le pape a eu cette réaction. Hein. Il a dit, pour le communisme, je sais faire. J'irai. Et il y a eu cette célébration où il a fait une sorte de milieu assez étonnante. Certains ont dit un peu récupératrice, hein, sur la devise française, hein, liberté, égalité, fraternité.
Jean-Paul II avait le sens du geste, le sens de la foule, le sens de la voix. Il posait sa voix comme un comédien. Il savait l'importance des silences. Alors on va dire, oui, c'est du théâtre. Oui, bien sûr, c'est du théâtre. C'est de la technique. Lui, il la possédait très bien. En plus, il avait une voix de baryton exceptionnelle. Et donc, vous savez, quand il avait une foule comme ça, de centaines de milliers de gens, et qu'il disait simplement dans le micro « Prions !» et que d'un seul coup, un silence incroyable régnait comme ça, vous en aviez la chair de poule. Là, on avait un homme qui avait vraiment le sens de la communication, du mot, du son, du silence, comme rarement les hommes d'église en général, et les papes en particulier, ont pu avoir. Alors, toute sa vie, il aura des mots, des gestes comme ça, dont il connaît la portée. Le premier, c'est peut-être celui qui aura eu le plus d'impact au regard de l'histoire. C'est à Jérusalem, en mars 2000, lorsque, avec sa main qui tremble déjà, le vieux Jean-Paul II glisse cette prière dans le mur des lamentations, dans l'interstice de la pierre, comme ça, selon la tradition juive. Et cette prière qui est évidemment tout le symbole du rapprochement qu'il souhaite, qu'il appelle de ses voeux entre les juifs et les chrétiens, après 2000 ans de relations assez complexes, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Jean-Paul II est là, il sait que c'est fondamental. Pourquoi c'est fondamental? C'est parce qu'on n'est pas dans l'actualité, là. On est dans l'histoire. On n'est pas entre la guerre des six jours et un problème de racisme. On est dans une histoire de 2000 ans entre juifs et chrétiens qui ne se sont jamais réconciliés, qui ne se sont jamais vraiment parlé. Donc c'est fondamental. Et ce geste-là est un geste essentiel. Et croyez-moi, dans 100 ans, dans 200 ans, si on retient qu'un truc de Jean-Paul II, qu'une image, ça sera celle-là. Cette main qui glisse cette prière dans le mur des lamentations.
Il était très costaud, c'est-à-dire il était très fort. Très fort. Et en même temps, son visage était très pensif. Il n'était jamais à l'extérieur, tout simplement, vous savez. Il était très pour les hommes, pour des autres, n'est-ce pas? Il était ouvert. Mais il avait son côté intérieur qu'il cachait. Ça c'est bien, bien clair. Et toujours pendant les excursions, il s'éloignait, par exemple, sur le kayak ou je ne sais quoi, tout simplement pour contempler, pour être seul, pour prier. Alors la prière était extrêmement importante, la contemplation aussi.
Au cours d'un pèlerinage à Rome, j'ai eu l'occasion, avec un petit groupe, d'aller assister à sa messe privée, la messe qu'il célébrait dans une petite chapelle tous les matins, avec un petit nombre de personnes. Et j'ai simplement le souvenir d'être entrée dans cette chapelle quelques minutes avant le début de la messe et d'avoir vu devant nous, nous tournant le dos, assis, à genoux sur son prie-Dieu, un homme écrasé dans la prière. Je ne sais pas comment vous dire ça, vous voyez, complètement saisi. Je crois qu'il aurait pu se passer n'importe quoi derrière lui, il ne l'aurait même pas perçu.
quand Jean-Paul II devient très vieux et presque grabataire dans les derniers mois de sa vie, tout le monde s'est dit, moi le premier d'ailleurs, hein, je vous le dis tout de suite, est-ce qu'il n'aurait pas intérêt à démissionner, quoi ? On voit bien que la maladie de Parkinson l'emporte, il a la face paralysée, le malheureux, il ne peut plus vraiment bouger, il bave un peu de temps en temps, alors il y a son secrétaire qui vient, qui essuie. C'était dérangeant, carrément, disons-le franchement. C'était dérangeant de voir ce vieux monsieur, on ne comprenait plus ce qu'il disait. C'était très, très dur. Or, je me suis dit, depuis le premier jour où je me suis interrogé là-dessus, il sait ça, lui, l'homme de communication. L'homme qui sait très bien ce que c'est qu'une caméra, qui sait très bien ce que c'est qu'un gros plan sur un homme malade. Il sait très bien. Il continue et c'est volontaire. Pourquoi ? Parce que cette attitude devant les caméras était tout simplement une façon de dire que lui qui avait défendu la primauté et la dignité de l'homme toute sa vie, c'était une façon de dire... Un homme, c'est ce qu'il y a de plus grand, c'est ce qu'il y a de plus beau, même quand il est malade, vieux ou handicapé. C'est pas parce qu'il est malade, vieux ou handicapé qu'il a perdu sa dignité. Il n'y a pas de raison qu'un homme malade, vieux et handicapé soit marginalisé, repoussé. Il dérange. Eh bien, l'homme dérange.
Il a un poème que j'aime beaucoup parce qu'il l'a écrit étant jeune prêtre. Et je crois que ça, c'est une sorte de fil rouge en quelque sorte. Hein. Il s'adresse au Christ. Je cite. Tu t'es épuisé mortellement. Ils t'ont mortellement détruit. Cela s'appelle la miséricorde. Et pourtant, tu es resté beau, le plus beau des enfants de l'homme. Une telle beauté ne s'est jamais reproduite. Oh, quelle beauté difficile ! Cette beauté s'appelle miséricorde.
C'était Jean-Paul II, pape conciliaire. Avec Marguerite Léna, professeure de philosophie, membre de la communauté religieuse Saint-François-Xavier, Monseigneur Georges Gilson, archevêque émérite de Sens-Auxerre, ancien prélat de la Mission de France, Carole Tarnowski, professeure de philosophie à l'université Jagiellon et à l'université papale Jean-Paul II de Cracovie, et Bernard Lecomte, journaliste, auteur de Jean-Paul II, aux éditions Gallimard. Un grand merci à eux, ainsi qu'à Émile Poula et Anna Smuk, qui m'ont aidé à préparer cette émission. Archive INA, Catherine Gariglia. Prise de son, Nicolas Lapère, Stéphane Desmond et Thomas Ochasowski à Radio Cracovie. Mixage, Jean-Michel Coqui.
Une vie, une œuvre était aujourd'hui consacrée à Jean-Paul II, 1920-2005. Une émission de Victor Massé de Lépinay et Pascal Raillet que vous pouvez télécharger pendant un mois et réécouter en ligne pendant 1000 jours. N'oubliez pas non plus de nous retrouver sur les réseaux sociaux. La semaine prochaine, dans Une vie, une œuvre et à l'occasion des 50 ans de sa disparition, nous vous proposerons une émission sur le chef de file des Hussards, Roger Nimier, qui ne reculait devant aucune extravagance pour faire de sa vie une œuvre d'art.